Voici un nouvel épisode de Culte. Toutes les œuvres dont on va parler se trouvent dans la description de l'épisode. Vous y trouverez également les liens pour nous contacter ou simplement nous dire bonjour. N'hésitez pas à nous suivre et bonne écoute. On est de retour avec un nouvel épisode de Culte Podcast et j'ai le plaisir d'avoir Thibaut avec moi. Comment ça va Thibaut ?
Ça va bien, ça va bien. Là, c'est un peu la fin d'année. Les vacances qui arrivent un peu déjà en cette fin juin.
Oui, c'est curieux que tu parles de vacances parce qu'en fait, je m'étais dit que, enfin, on en a discuté, on s'était dit qu'on parlerait bien de vacances pour cet épisode. Donc,
c'est le timing parfait en fait.
Timing parfait, oui. Je ne pense pas que ce soit un hasard. Et donc, aujourd'hui, on va, comme d'habitude, on va discuter un petit peu de livres et de films qui nous ont marqués. On a aussi une petite liste pour un petit peu passer en revue en fait les livres qu'on aimerait bien lire cet été, donc ce qui nous tente. Et on en parlera sûrement par la suite. Si on a été déçu ou plutôt surpris. Et pour commencer, donc, moi, quand j'ai commencé à préparer le podcast et que je pensais aux vacances, je me suis dit que ça rimait assez bien avec le livre de Sylvain Tesson qui est « S'abandonner à vivre ». Parce que pour moi, les vacances, c'est un moment où on est souvent déconnecté, donc on se détache de sa routine quotidienne. On est loin, par exemple, de son ordinateur, de son boulot, peut-être de sa voiture, et on s'abandonne à vivre autre part. Donc, que ce soit un peu dans la région ou à l'étranger, on n'a pas le choix. On s'abandonne à vivre. Et dans ce livre de Sylvain Tesson, dont on a un peu parlé un peu plus tôt dans notre série de podcasts, on discutait, je pense, c'est toi qui en parlais, type de La Panthère des Neiges. Moi,
oui,
je me souviens avoir lu aussi son histoire au niveau du lac Baïkal. Il s'était retiré comme ermite. Donc, c'est un écrivain assez spécial, Sylvain Tesson. Il adore Kerouac, par exemple. Il adore les aventuriers. Et dans ce petit recueil de nouvelles, il va vraiment nous démontrer à nouveau son talent de conteur. Donc, il y a plein d'histoires vraiment assez courtes, percutantes, avec des fins qui sont douces amères, plutôt douces qu'amères, même s'il y en a une ou deux qui terminent peut-être un petit peu violemment. Et moi, j'ai quand même été assez impressionné par son usage de la langue française. Donc, il a un vocabulaire qui est très précis. On pourrait dire léché, vraiment poli et parfois surprenant. Donc, avec des tournures de phrases, on voit que c'est un artisan des mots. C'était une lecture assez plaisante. Donc, ses histoires sont vraiment empreintes d'un certain fatalisme parfois aussi. Avec notamment, il en parle en dernière de couverture, il aurait conseillé à la plupart de ses héros de rester au lit ce jour-là, parce que ces histoires ne terminent pas toujours comme le héros l'aurait souhaité. Et donc, il définit notamment ce fatalisme en utilisant un terme russe qui s'appelle, qu'il a francisé, et qui est en fait le pophigisme. Et donc, c'est vraiment l'idée d'un fatalisme envers l'absurdité de certaines situations sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle et qu'il faut simplement accepter. Donc, c'est peut-être un petit peu sa version de l'abandonnement à la vie et aux choses. Mais c'est aussi une chouette lecture, je dirais, pour l'été. Donc, je peux commencer par conseiller celle-là.
Eh bien, alors, moi, je veux dire, comme conseil de lecture d'été, j'avais l'habitude, il y a quelques années, de lire une série qui s'appelle « Les enquêtes de Ma Ramotswe ». Donc, c'est écrit par un écrivain écossais qui s'appelle Alexander McCall Smith. Et en fait, il a travaillé, au Botswana, donc à l'époque du temps où c'était une colonie anglaise qui s'appelait la Rhodésie. Qu'est-ce que c'est, les enquêtes de Ma Ramotswe? Donc, c'est une série en fait de bouquins de 17, il y en a une vingtaine maintenant, une vingtaine qu'il a écrit. Et en fait, donc ça met en scène cette détective qui s'appelle Precious Ramotswe. Donc, elle mène de petites enquêtes. On peut dire criminel, mais bon, ça n'est pas dans, on est dans des choses finalement assez simples parce que ça parle surtout de la vie au Botswana en fait. Donc, on va avoir des histoires de marivolage ou des objets qui disparaissent, des choses comme ça. Donc, c'est des histoires finalement assez simples. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est son personnage à elle, parce qu'en fait, elle a décidé de créer, dans le premier roman en tout cas, la première agence de dames détectives du Botswana. Donc, c'est pour ça qu'elle s'appelle l'agence numéro 1 des dames détectives. Et donc, okay. Dans le premier roman, en fait, elle crée cette agence. Elle a une histoire en fait un petit peu compliquée. Donc, son père, qu'elle admirait beaucoup, est mort. Elle lui a laissé un troupeau de vaches, je pense. En revendant, je pense, une partie de ce troupeau, elle va pouvoir fonder son agence et notamment engager une secrétaire parce que toute bonne détective se doit d'avoir au moins une secrétaire, qui s'appelle Ma, donc comme Ma Ramotswe, Ma Makutsi, donc Madama, quoi, finalement. Une assistante, enfin, donc une secrétaire qui a un caractère très, très tranché, qui est très, très fière aussi de dire qu'elle a terminé qu'elle est diplômée de l'Institut de secrétariat du Botswana avec un score de 97 sur 100, qui est un score que personne n'a jamais atteint dans l'histoire de l'Institut de secrétariat. Et donc, on suit autour de ces deux personnages principaux. Il y a d'autres personnages aussi, par exemple, le garagiste avec qui Maramotswe est en relation. Et puis, au fil des romans, ils vont finir par se marier à un moment. On a aussi la directrice d'un orphelinat qui s'appelle Ma Potokwan, et qui est un personnage savoureux parce qu'elle arrive toujours à ses fins, finalement. Et donc, elle arrive toujours, par exemple, à embrigader, on va dire, le mari de Maramotswe pour faire toutes sortes de réparations gratuitement, simplement en l'achetant avec son cake aux fruits. Voilà. En fait, c'est vraiment une lecture extrêmement plaisante. Ça se lit tout seul et c'est vraiment empreint de sagesse populaire, en fait. Le ton est particulier, léger, et c'est vraiment ce qui fait que c'est si savoureux. Ça ressemble pas du tout. Ça détonne dans la mesure où ça n'est pas du tout écrit comme les romans habituels, on va dire. Voilà, y a quelque chose de très particulier qui est plaisant. Et alors, ce qui est un peu dommage, malheureusement, donc maintenant, en fait, il y en a 20. L'auteur, il en a écrit 22, mais il n'y en a que 17 qui sont traduits en français. Donc, ils sont tous chez 10-18. Et je ne sais pas pourquoi, depuis 2017, c'est plus traduit. Donc, il y en a 5 qui restent inédits en français à ce jour. C'est un peu dommage parce que, du coup, moi, je suis arrivé au bout de la série et j'ai plus mon petit plaisir chaque été. À reprendre comme ça. Et alors, pour information aussi, il y a eu une adaptation, il y a eu une série de la BBC. Bon, c'est juste une saison de 7 épisodes. Donc, ça, c'était en 2008, avec Jill Scott dans le rôle principal, donc elle qui campe Maramotswe. Moi, ce qui m'avait beaucoup plu dans la série, c'était de voir un peu tous ces paysages du Botswana. Ce n'est pas finalement un pays qu'on connaît très, très bien. On connaît l'Afrique du Sud, qui est juste en dessous. Mais ça fait partie. Un peu plus au nord, on a évidemment, pour nous Belges, le Congo, c'est un pays important. Mais entre les deux, ce ne sont pas vraiment des pays qu'on connaît très bien. Et en fait, on se rend compte que, bon, évidemment, ça reste l'Afrique. On n'a pas d'ailleurs le niveau de développement de l'Afrique du Sud, mais globalement, c'est un pays qui s'en sort pas trop, trop mal. Il n'y a pas de guerre. Voilà, développement peut-être plus limité, mais en tout cas, les choses ont l'air de se passer plutôt bien. Le seul problème qu'il y a là-bas, en fait, c'est le sida, un peu comme en Afrique du Sud. Mais voilà, et donc tous ces pays-là, moi, ce qui fait que ça me fait dire à chaque fois, ça me donnait en fait envie d'aller au Botswana. Si je devais aller en Afrique aujourd'hui, je mettrais bien ce pays en top liste, alors que ce n'est pas spécialement une destination touristique.
D'accord. Et donc, est-ce qu'il y a beaucoup de collines, un petit peu genre comme au Rwanda?
Il me semble qu'il y a le désert, bien sûr, puisque vers l'ouest, je pense, c'est le désert du Namib. Donc, le désert est quand même fort présent, mais ils ont des troupeaux, ils ont du bétail. Donc, j'imagine qu'il y a des endroits quand même plus verts. Et bon, on est quand même assez bien au sud, donc des endroits qui sont moins chauds. Oui, il me semble qu'il y a quand même quelques collines. Et alors, donc, je parlais de ça de lecture d'été. Et donc, dans la série de Maramotswe, il y en a un qui s'appelle Les vacances de Maramotswe. Donc, comme ça, on est vraiment raccord avec le thème d'aujourd'hui. Et alors, dans celui-là en particulier, qu'est-ce qui se passe? En fait, Maramotswe prend des vacances pour la première fois. Donc, elle va laisser les clés de son agence à sa secrétaire, qui, entre-temps, a été, je pense, nommée assistante détective, parce que c'est quelqu'un qui veut vraiment progresser dans sa carrière. Et seulement, en fait, elle ne sait pas quoi faire pendant ses vacances, et elle ne peut pas résister à l'envie d'aller voir un peu ce qui se passe, mais un peu en stoumeling comme ça. Et donc, on va venir un peu voir comment est-ce que son assistante s'en sort. Et voilà, et donc finalement, les vacances, ce ne sera pas tout à fait des vacances, quoi.
D'accord. Il n'y a pas une liste de conseils où se rendre en vacances quand on est au Botswana.
Non, là, en fait, ça se passe plutôt dans la. Non, 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 ce n'est pas le but non plus. Ça se passe dans la banlieue de Gaborone, qui est
D'accord.
une des plus grosses villes du pays, je pense. Donc non, non, c'est pas ça qu'on ressent. On n'a pas des descriptions de paysages ou des choses comme ça. C'est vraiment plus en découvrant la série que j'ai pu voir tout ça. Mais en fait, les personnages sont très attachants, donc c'est vrai que ça donne envie. On se dit, ah tiens, si c'est ça le reflet du pays, ça a l'air chouette, quoi.
Ouais. Est-ce que l'auteur a une expérience en Afrique ou au
Oui,
Botswana?
oui, 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 tout
Non,
à
c'est
fait.
ça.
Je sais plus s'il a travaillé là-bas ou quelque chose comme ça. Il connaît le pays, en tout cas.
Ouais. Et ça se ressent dans les descriptions.
Écoute, bon, après, on dira que bon, y a des personnages un peu, tu vois, ça reste une lecture facile, donc on a des personnages un peu caricaturaux. Donc, bon, je ne pense pas que son but ce soit vraiment de dresser un portrait un état du pays. On n'y est pas du tout. Mais c'est un peu difficile à dire, mais moi, il y a quand même l'envie de bien représenter, de bien parler de ce pays-là quand même. Donc, pas du tout de dénaturer ou chose comme ça. Non, c'est plutôt. Tout est en fait finalement assez positif là-dedans. Même les personnages qui causent du tort. Par exemple, Mahamoudzoué, c'est quelqu'un qui est très empathique et donc qui essaiera toujours de trouver le bon côté des choses et même le bon côté des gens, parfois les plus mauvais envers elle-même, parfois. À part son ex-mari qui l'a brutalisé, parce que ça fait partie de son histoire personnelle. Voilà, ça reste quelqu'un de fondamentalement positif envers les gens. C'est ça qui est. C'est très rafraîchissant comme lecture, je trouve. Même si ça n'a aucune prétention, hein. On n'est pas dans de la grande littérature, hein. L'auteur a d'ailleurs d'autres séries que celle-là. Moi, j'en avais lu un. Je pense que c'est le Club des philosophes amateurs. J'ai été moins fan parce que y avait moins. C'est moins original, on va dire. Donc, ce côté, tu vois, Botswana, couleur locale, entre guillemets, fait toute l'originalité de la série. C'est pour ça que j'étais moins fan d'autres.
Mais je te demande parce que, par exemple, Sylvain Tesson, donc en lisant Sa bonne année à vivre, d'après les descriptions, sont assez pointues et comme ça, une bonne connaissance des différents pays. Et ça donne vraiment, j'en suis presque certain, on ressent qu'il a voyagé et qu'il a vécu ou il a vu beaucoup de ces histoires. Donc ça devait être assez facile pour lui après de se replonger, d'écrire
Ouais,
des bouts de fiction.
on est très éloigné d'un Sylvain Tesson, hein. C'est beaucoup plus simple. J'ai moins de prétention dans le. Pas prétention, je ne vais pas dire que l'auteur est prétentieux, hein, mais moins d'ambition plutôt, d'ambition littéraire. C'est ça que je voulais dire. Franchement, lecture d'été, quoi.
C'est bon à savoir. Alors, si tu nous conseilles donc cette série et cet auteur, si moi je vais rebondir là-dessus, mais en étant peut-être un peu plus détaché, peut-être un peu négatif, si on peut dire, ce serait pour passer en revue quand même une grosse sortie de cette année, en tout début d'année civile, c'était la sortie d'Anéantir de Michel Houellebecq. Donc, ces temps-ci, je pense qu'il sort un livre tous les 2-3 ans, plus ou moins. Et c'était la première fois que le livre a un peu surpris la critique parce qu'on a pu remarquer par exemple que c'était vraiment une grosse brique. Donc on parle de 730 pages, plus ou moins, alors que d'habitude il se limite à des formats plus conventionnels, 200, 300 pages. L'histoire commence plutôt bien, mais j'avais quand même l'impression qu'il s'agissait peut-être d'un autre auteur au départ. Donc ça donne une drôle d'impression, c'était un style un petit peu différent. Une histoire qui commençait peut-être à 100 à l'heure. On a en fait un groupuscule terroriste qui envoie et qui publie même une sorte de terrorisme digital. Donc on va avoir affaire à pas mal d'incidents filmés, ou du moins des incidents qui ont l'air filmés ou bien représentés de manière digitale et qui sont d'un réalisme assez incroyable. Donc, il y a par exemple une équipe qui travaille là-dessus et qui ne parvient pas à définir s'il s'agit d'événements réels ou non. Donc, niveau graphique est tel qu'ils ont des doutes. Et la seule manière pour eux, en fait, de départager le vrai du faux, c'est que ces événements, il n'y a pas eu de retentissement dans la vie réelle. Donc, par exemple, on a un ministre qui est dans une plaine et qui passe à la guillotine. Et donc, c'est un événement assez cru, sauf que le ministre va bien, il ne s'est rien passé à ce niveau-là. Ça amène un peu à confusion, cette équipe. Donc, on commence un petit peu sur ce thème-là. Donc, il y a une sorte de fond de mystère. Et puis, on commence à suivre un assistant, en fait, d'un des ministères qui va avoir sa vie un petit peu chamboulée avec une maladie qui atteint son père. Puis, lui-même, il sera plus tard atteint d'une maladie. Il a des problèmes de couple. Et en fait, ça tourne comme ça autour de la famille sur près de 700 pages. On oublie un petit peu les prémices du départ, qui était cette histoire de terrorisme digital qui, au final, passe de l'autre côté du miroir. Donc, il y a comme ça quelques attentats dans le monde réel. J'ai peut-être un sentiment un petit peu partagé sur cette histoire parce que je vais commencer par dire qu'en général, moi, Michel, je l'aime bien. Il a son style, ses controverses et ses punchlines, mais les livres précédents, donc j'ai par exemple lu, enfin je le connais depuis 2010, c'est le prix Goncourt. Donc j'ai quand même bien aimé La carte et le territoire, ou
Ouais.
bien Plateforme, La possibilité du Nil, et plus récemment Soumission, était plutôt pas mal. Sérotonine peut-être un cran en dessous, mais avec Anéantir, j'ai l'impression qu'il est peut-être passé un petit peu à côté. Je trouve que c'est une œuvre de 700 pages. Il faut s'accrocher et l'histoire tombe peut-être un petit peu en camouflet vers la fin. J'avais lu une critique qui disait que c'était en fait qu'il était entre nihilisme et romantisme. Donc il mélange les deux. Si on le voit sous cette approche-là, c'est peut-être pas une œuvre si ratée que ça. Sauf que ouais, pourquoi est-ce qu'il faut écrire 700 pages sur le sujet? Je crois qu'il aurait fait tout aussi bien ou mieux sur la moitié. Donc. Ça donne l'impression de ne pas avoir été édité. Je suis désolé si j'heurte les sentiments de certaines maisons d'édition, mais on aurait pu faire pour moitié moins. C'était mon approche sur Anéantir de Michel Houellebecq. Donc, pour rester dans cette vibe négative, dans ce sentiment négatif, on peut parler aussi du Touriste, donc The Tourist, qui est un film de Florian Henkel von Donnersmarck. C'est un film avec Johnny Depp et Angelina Jolie. Et si ça ne vous dit rien, ça ne m'étonne pas parce que le film est assez cliché. Ça se passe, c'est un film qui se tente un petit peu film d'action, qui se cherche beaucoup, avec des dialogues assez plats, des auteurs qui se donnent à peine la réplique. Il y a une sorte de mystère, mais on a un peu du mal à y croire. Le film est juste bien, étant donné qu'il se passe à Venise. Donc il y a quand même pas mal de vues d'hélicoptères de Venise, différents palais, donc ça vaut toujours le coup. Mais le film en soi est très plat, sans charisme, avec un rebondissement à la fin qui on va pas tant que ça non plus. Donc à oublier très rapidement. Il est mal noté aussi sur Rotten Tomatoes et tout ça. Donc. Et ce qui me gênait aussi, c'était par exemple, on avait une scène dans un commissariat et le réalisateur s'est senti obligé de mettre une musique de fond pour donner une sorte d'ambiance ou de stress ou de sentiment comment dire, de thrill dans le film alors qu'il ne se passe rien du tout. Et il y a comme ça pas mal de défauts, je trouve. Donc, je ne sais pas si c'était son dernier film, mais j'espère qu'il a pris une autre voie entre-temps.
Bah écoute, sur IMDb, il a quand même 6 sur 10, c'est pas une note si dégueulasse que ça.
Et combien de personnes ont voté? C'est basé sur les.
240, 241 000.
Ouais, 6 sur 10.
Ça
Bah
va encore,
pour certains tests, ça, c'est pas suffisant pour passer. Donc,
hein?
si c'est en toutes 7, en général, ça vaut pas vraiment la peine. Donc, oui. Je ne le conseille pas.
Ok, bah tout ça est quand même bien négatif, c'est la première fois qu'on t'entend comme ça.
Oui, c'est les vacances et je me lâche. Donc.
Ok, bah écoute, enfin bon, moi j'ai que du positif aujourd'hui, je pense. Donc là, je vais quand même un peu revenir avec quelque chose de, allez, plus de des recommandations, on va dire, parce que ça, c'est plutôt des choses à ne pas lire, enfin à ne pas voir. Mais on va rester dans le cinéma, si tu veux bien. Alors, vacances, vacances, moi, film qui me faisait penser à les vacances, je pensais à deux films certainement de Woody Allen. Woody Allen, moi j'aime beaucoup ces films, j'aime beaucoup. En fait, dès qu'il y en a un, je sors le voir. C'est presque, je coche toujours ça. Et alors ici, je pensais plus particulièrement, premièrement, à un film qui s'appelle To Rome with Love. Donc, c'est sorti en 2012. C'est pas le film qui a le plus marqué, hein. C'est pas le film qui a les meilleures critiques non plus. Enfin, juste avant, il y avait eu Minuit à Paris, Midnight in Paris, qui avait été voilà fort remarqué, bien assez applaudi. Et je pense que c'est juste après qu'il y avait eu Blue Jasmine avec Cate Blanchett. Donc là, par contre, c'était deux plutôt majeurs dans ces derniers films. Donc là, il passait un peu entre les deux. Ben moi, j'ai vraiment bien aimé, en fait, autant que les autres. Mais déjà, en fait, ce qui est chouette, c'est qu'on a la ville de Rome qui est là, qui est bien présente et qui donne le cadre à toutes les petites histoires qu'on va retrouver dedans. Parce qu'en fait, son film, c'est plein de personnages, qui ont leurs histoires, on va dire, et certains d'entre eux vont se croiser. Donc, on a par exemple Woody Allen qui joue dans son film, comme ça arrive parfois, là, qui est un ancien, qui a travaillé dans l'opéra. et qui ici va mettre en scène, d'ailleurs, une scène assez cocasse, un type à l'opéra dans sa douche. Donc, on va voir une douche qui s'amène sur scène et lui prend vraiment sa douche pendant qu'il chante à l'opéra, quoi. Mais
Ok,
bon, voilà. Donc,
spécial.
évidemment, oui, mais ça reste du Woody Allen. Hein, donc, il faut quand même des choses un petit peu étranges comme ça. Aussi, donc, dans ce film, un Américain qui est campé par Alec Baldwin qui revient en fait. Revient à Rome après 30 ans, un peu comme ça à la recherche de son passé. Et c'est là qu'il tombe sur un jeune, un autre Américain, mais beaucoup plus jeune, qui est campé par Jesse Eisenberg. Ils vont avoir une sorte de relation entre eux aussi, qui est très, très chouette parce que ben, on a le plus ancien et le plus jeune. On a Roberto Benigni, donc c'est chouette d'aller à Rome et de voir comme ça Roberto Benigni, qui du jour au lendemain, en fait, se retrouve pourchassé par des paparazzi, parce que c'est apparemment quelqu'un de très très connu, alors que ce n'était pas le cas avant. On a aussi Penélope Cruz qui joue le rôle d'une escorte. Enfin voilà, et donc on est toujours dans le même genre, c'est toujours du Woody Allen, donc on a toujours des petits marivaudages comme ça, dans la ville de Rome. Je pense qu'à l'époque, je n'étais pas encore allé à Rome, et ça donnait furieusement envie d'aller là-bas en vacances. Et alors, au tout début du film, ce qui est amusant, c'est qu'on a un agent qui fait la circulation au centre, un peu comme un rond-point. En tout cas, toutes les voitures se croisent autour de lui, et il commence par dire « In this city, all is a story ». Donc, c'est vraiment ça. C'est montrer que il y a plein d'histoires dans cette ville, quoi. Donc, vraiment, très, très chouette film. Et alors, je sais pas trop pourquoi, en fait, quand je pensais vacances, été, c'est un autre film de Woody Allen qui me venait aussi à l'esprit, là un peu plus récent, puisqu'il est sorti en 2019, et c'était A Rainy Day in New York, avec Timothée Chalamet, Selena Gomez, Elle Fanning aussi. Et c'est pas très clair à quelle saison ça se passe, en tout cas de mémoire, mais moi, ça me faisait quand même penser à l'été, parce que c'est un jeune couple, comme ça, ben donc Timothée Chalamet et Elle Fanning, qui débarquent à New York pour un week-end de vacances, quoi, finalement. Et en fait, donc, bah, l'idée, c'était un peu de visiter la ville, et bien, rien qui va se passer comme prévu. D'une part, donc, elle, la fille, donc Ashley, devait en fait interviewer un réalisateur réalisateur de cinéma pour qui elle avait beaucoup d'admiration. Et puis finalement, ben, il l'entraîne un peu dans différents événements. De son côté, Timothée Chalamet, il va tomber sur une ancienne connaissance qui veut le faire tourner dans un film. Et donc, au fil comme ça de leurs aventures, ils se retrouvent jamais, en fait, ces deux-là. Donc, le week-end qu'ils devaient passer ensemble, ils ne le passent pas du tout ensemble. Puis, évidemment, ça s'appelle Rainy Day New York, donc il y a la pluie qui s'invite à des mo à un mauvais moment. Et voilà, donc, en fait, je pense que c'est aussi la couleur. Donc, je ne peux pas parler de pellicule puisqu'on filme en numérique maintenant, mais je ne sais pas comment on arrive comme ça à créer cette chaleur, en fait, dans l'image qui me faisait penser à l'été, en fait. Ce sont des
Ouais.
films assez faciles, voilà, mais sans beaucoup de prétention, mais vraiment très très chouettes.
Et bien, peut-être pour répondre à ton questionnement, ben, là récemment, je parlais avec un photographe qui me disait qu'il avait acheté un filtre qui peut se rajouter au niveau de l'objectif. Et donc, ça donne, par exemple, ça pourrait donner un niveau, si on imagine des photos de mariage, tu peux par exemple prendre des photos qui, ça donne un petit effet glow, un petit effet comme ça qui va briller ou qui va insister sur la lumière. Donc ça veut dire que par la suite, tu ne dois pas retoucher, tu as directement une photo qui naturellement a ses bénéfices et tu ne dois pas jouer avec un software et tu as peut-être un petit bénéfice comme ça au niveau de l'image. Il est possible qu'un filtre ait été ajouté, comme on pourrait peut-être ajouter un filtre sépia ou autre chose. Ça, je n'étais pas du tout au courant de ce genre de truc. Je pensais que tout se faisait en post-production, mais il est possible que ça ait été filmé comme ça.
Ah
Tout
oui,
comme
d'accord.
parfois certains films, certains réalisateurs préfèrent filmer avec des vieilles caméras Super 8 ou des trucs du style pour avoir un effet authentique qu'on ne pourrait pas vraiment avoir en studio. Je me souviens avoir vu Midnight in Paris qui m'a vraiment bien plu avec il y avait Gertrude Stein, Hemingway.
Il y avait Marion Cotillard et il y avait
Oui.
Owen Wilson, non?
Oui, mais qui est-ce qu'il joue encore? Ah, il joue Fitzgerald. En fait, non, je crois que c'est un auteur qui se cherche un petit peu et qui tombe en fait sur tous ces artistes. Et
Ouais,
donc, il
c'est
a
ça.
l'occasion de discuter avec eux et de passer quelques soirées. C'est à chaque fois à minuit, je pense, qu'il repasse dans ce Paris des années 20.
Il y a plusieurs. C'est que dans les années 20 ou alors c'était. Il va pas dans plusieurs époques, je ne sais plus, tiens.
J'aurais
Attends,
été
c'est
tenté
années
de dire ça.
20. Ah ouais, non, tu dois avoir raison. Ouais,
Ouais.
ok.
Ouais, donc ça, ce film-là m'avait bien plu. Et je pense que l'histoire à Rome me dit quelque chose aussi. Donc pour l'histoire à Rome, il faudrait que je revisite, mais ça, je me rappelle d'Alec Baldwin et de Cruise, peut-être bien. Et alors, en fait, pour continuer là-dessus, s'il s'agit de souvenirs de vacances, l'été dernier, je passais quelques jours en Espagne. J'étais du côté de Grenade et de. On connaît évidemment peut-être l'Alhambra. Donc, c'est un domaine avec le palace de l'Alhambra et tous les bâtiments qui gravitent autour. Il y a une œuvre en littérature qui a eu une grande importance dans la redécouverte de ce joyau. C'est l'œuvre de Washington Irving, Les Contes de l'Alhambra. Là-dedans, on peut dire qu'il s'agit d'un inconnu célèbre, Washington Irving, parce que. Il a eu une influence assez importante sur au moins deux œuvres. Pourtant, de nos jours, son nom ne dit pas grand-chose. Donc, si je te parle de la légende de Sleepy Hollow, est-ce que ça te dit quelque chose?
Non,
Pas du tout.
non.
Il y a ce fameux film, et là, je peux faire un lien avec le film The Tourist, parce qu'il y a Johnny Depp qui joue dedans, qui est dans ce film où il y a le cavalier sans tête. Ça ne te dit rien du tout, non?
Moi, je connais la chanson de Damien Saez, mais je pense que ça n'a rien à voir.
Ah, d'accord. Donc, ça, je veux dire que c'est un. Donc, Washington Irving, il est derrière cette histoire-là, donc qui a par la suite aussi été adapté en film, qui était un film assez effrayant. Je me rappelle l'avoir vu début des années 2000, avec ce cavalier maudit qui parcourt le village de Sleepy Hollow. Et puis, alors, évidemment, Irving a aussi écrit Les Contes de l'Alhambra. Et donc, à l'époque, il voyageait à travers l'Espagne. Et après un passage à Madrid, il s'est déplacé vers Grenade et il a été choqué par la beauté des collines, des ruines et de la ville en général. Il a obtenu en fait la permission de loger dans le domaine quelque temps et là il y a écrit une collection d'essais, d'histoires et de discussions sur l'Alhambra, donc ce palais majestueux sur la hauteur de Grenade. C'est en fait suite à la sortie de ce livre, ça a permis de renouveler l'intérêt de, si on peut dire, de l'Occident, donc. Peut-être l'intérêt pour l'Espagne, qui avait été peut-être un petit peu oubliée, et de ces joyaux qui avaient été oubliés. Avec notamment l'Alhambra qui a ensuite bénéficié d'une belle rénovation, qui démarrait plus ou moins à l'époque où Irving a visité le domaine. Et donc, moi de mon côté, c'est un palais que j'ai eu l'occasion de visiter, surtout la partie rénovée et construite par la dynastie Nasride. C'est un magnifique exemple d'art islamique, des influences maures aussi. Pour l'anecdote, j'ai lu par hasard qu'en fait, c'était à l'Alhambra que Christophe Colomb avait reçu sa mission de voyager vers l'ouest. Je crois que la cour du roi d'Espagne y a vécu pendant quelque temps, du moins au XVe siècle. C'est là qu'il a reçu sa mission. Et puis, par la suite, ils ont changé d'endroit. Donc ça, c'était pour peut-être le côté historique, avec aussi l'importance du domaine.
Oui, ben, l'Alhambra, c'est quelque chose. Enfin, moi j'y suis allé. J'étais vraiment tout petit, donc il y a des années. Et à l'époque, on pouvait y entrer facilement, mais maintenant, tu dois vraiment réserver. Donc c'est vrai que l'intérêt pour l'Alhambra a beaucoup augmenté. Comme ça, je pense déjà 10 ans après que j'y suis allé, c'était déjà plus la même histoire, quoi, hein. Tu pouvais plus y rentrer comme tu le souhaitais. Incroyable ce que
Oui.
ça a pris d'ampleur d'un point de vue tourisme, hein.
Oui, c'est assez bien gardé, même une semaine à l'avance, parfois, ça ne suffit pas pour avoir un ticket. Il faut faire assez attention et il faut être là à l'heure si on veut pouvoir rentrer. Et donc les billets sont vendus avec un début à une certaine heure, après on peut rester autant qu'on veut, mais il faut être là pour éviter les foules. Ouais.
Donc toi, oui, donc tu disais tu y es récemment. Moi, quand j'étais beaucoup beaucoup plus petit pour le coup. Et pour revenir vraiment à nos années d'enfance, on va dire, est-ce que tu es déjà allé en, est-ce que tu as déjà fait des camps scouts ou est-ce que tu es allé en colonie de vacances?
Ah non.
Moi non plus. Moi non plus. Et pourtant, c'est un thème assez présent au cinéma, un peu en enfin, littérature aussi, on va dire. Parce qu'en fait, en préparant ici ce podcast, je me suis rendu compte qu'il y avait ben, pas mal de films qui traitaient de ça. Et ben, je pensais par exemple à un des premiers films, je pense que c'est le deuxième film de Éric Toledano et Olivier Nakache, donc duo très bien connu de la comédie française et qui redonne vraiment ses lettres de noblesse à la comédie en France. Parce que bon, Dieu sait que Il y a beaucoup de daubes qui sortent. Mais là, pour le coup, eux font toujours de très, très bons films. Et donc, Nos Jours Heureux, ben, donc, c'est leur deuxième. Pas le plus notable, mais quand même très chouette à voir, où on a en fait une colonie de vacances un peu en été, un été, avec Jean-Paul Rouve, qui est un peu le directeur de tout ça. Et évidemment, il n'a aucune autorité. Il n'y a rien qui se passe comme il le souhaiterait. On retrouve déjà Omar Sy dedans, qui connaîtra plus tard beaucoup plus de succès avec Intouchables. C'est un premier film qui parle de colonie, on va dire. Et alors, autre chose, une chose à laquelle je pensais, donc, on connaît tous le petit Nicolas. Et donc, en particulier, on a les vacances du petit Nicolas. Et en fait, dans le livre, il y a deux parties, hein, parce que je pense que les histoires de Goscinny et Sempé sont parues pendant 2 étés. Donc, il y a une partie où il part avec ses parents à la mer, et il y a une partie où il part vraiment en colonie tout seul. Alors que le film qui a été adapté, finalement, ben là, il est toujours avec ses parents. Le petit Nicolas s'est aussi été adapté au cinéma, et donc en l'occurrence, c'était un film de Laurent Tirard, on avait Valérie Le Mercier, Cadmeyrat qui interprétaient les parents. Il y aura un dernier film qui parle un peu de tout ça, c'est Wes Anderson. Je pense que j'ai déjà parlé de lui dans ce podcast, sinon. Et je pense que j'en reparlerai un jour parce que je me disais, il y a un film de lui dont j'ai très envie de parler, mais donc ça, il faudra qu'on trouve un thème pour pouvoir l'inclure une prochaine fois. Mais ici, je pense surtout à Moonrise Kingdom, donc ça qui est sorti, je ne sais plus, en 2012, voilà. Donc on retrouve déjà dans celui-ci certains de ses acteurs fétiches, hein, Bill Murray, Tilda Swinton, Frances McDormand. Et donc là, ça se passe dans les années 60, sur une petite île, où on a un petit garçon qui est dans un camp scout, qui est aussi géré par un gars qui est campé par Edward Norton, qui n'a absolument aucune autorité sur les enfants. Donc ça, c'est un peu, il faut croire que c'est un peu une constante au cinéma. Et donc, il correspond, donc il envoie des lettres avec une fille qui habite sur place, et finalement, ils vont s'enfuir. Parce que tous deux, en fait, se ne sentent pas... un peu rejetés, n'ont pas vraiment d'attache, des amis ou des choses comme ça. Donc, ils vont s'enfuir. Des gens vont se lancer un peu à leur poursuite. Et il va se passer toutes sortes d'aventures comme ça, un peu loufoques, assez plaisantes. Avec Wes Anderson, il y a souvent une bande-annonce qui rythme un peu comme ça le film. Et là, dans la bande-annonce, on retrouve une chanson de Françoise Hardy. C'est un peu étonnant, hein, parce que la chanson préférée de la petite fille, en fait, c'est Le temps de l'amour. Et donc, ça revient un peu comme ça, plusieurs moments dans le film. Ça donne aussi une couleur particulière.
Ah, d'accord. C'est vrai que tu racontais que souvent dans les camps de vacances, il y a un manque d'autorité. Je me demande si c'est peut-être pas simplement parce que les éducateurs, qui sont peut-être éducateurs pendant l'année, décident aussi de prendre un peu leurs vacances et se laissent aller peut-être, ou n'ont peut-être plus la force de crier. Ouais.
Oui,
Ouais,
je ne sais pas si c'est, comme je dis, moi, je n'ai jamais fait de camp comme ça, je ne sais pas si c'est une réalité ou juste... un moyen de raconter des histoires. En tout cas, dans le film de Wes Anderson, je pense que c'est un prof de maths, donc c'est pas quelqu'un dont c'est vraiment le métier. Donc voilà, c'est pour ça aussi qu'il ne s'en sort pas. Il n'est pas habitué à s'occuper d'enfants dans ce contexte particulier.
Est-ce qu'on va passer peut-être à la partie où on va discuter de nos plans pour les vacances, nos plans lecture?
Oui, c'est excellente idée. Je propose que tu commences alors.
Oui.
Qu'est-ce que tu planifies alors pour cet été?
Alors, j'ai quelques livres sur ma liste. Le premier, il faudrait que je le termine.
Ah,
Je l'ai pas
oui.
ici, je ne l'ai pas ici devant moi. Et c'est en fait un livre, The Hemlock Cup. Et c'est de Bethany Hughes. Et elle écrit sur Socrate. Donc, elle se plonge vraiment dans la Grèce antique et on suit Socrate de ses débuts. On en apprend aussi un petit peu sur la vie à Athènes, avec les tensions pour la survie de la cité, l'âge d'or d'Athènes avec Périclès. C'est assez limité au niveau philosophie, parce que c'est une historienne. Elle se place comme historienne, elle ne prétend pas faire redécouvrir Socrate ou le commenter. Mais on le suit pas à pas, on essaie un petit peu de comprendre ce qui a mené à son procès, comment est-ce que la vie, à quoi ressemblait la vie de tous les jours pour un Athénien de l'époque. Et c'est un livre assez prenant, qui est bien écrit. Elle est d'ailleurs assez connue parce qu'elle a aussi participé, enfin elle présentait en fait même une sorte de triptyque pour la BBC sur trois penseurs de l'époque. Donc, on a un chapitre sur Bouddha, un sur Socrate et puis un autre sur Confucius. Et c'était par la suite, je pense qu'elle a même écrit un livre aussi à ce niveau-là. Donc ça, c'est un des livres que je devrais terminer cet été, mais qui est assez prenant. Donc ça, je peux le conseiller. Déjà, un deuxième par la même auteure, c'est sur Istanbul. À part ça, je vais commencer par un des livres que j'ai ici devant moi. Ce serait Salman Rushdie. Donc on le connaît pour notamment Verset satanique,
Oui,
que
tout
je
à
n'ai pas
fait.
lu. Est-ce que tu l'as lu?
Non, non, non.
Rien du tout de l'auteur?
Non, j'ai
Non?
jamais rien lu de lui. Mais je connais bien sûr, comme tu viens de le citer, mais
Oui. Et alors, je me suis dit que c'était un bon moment pour peut-être commencer. Et j'ai donc devant moi Patrie imaginaire. Le titre me parlait plutôt bien. Donc, c'est apparemment un ensemble d'articles qu'il a écrit, une sorte de carnet de route de l'écrivain. Donc, ça, il faudra que je le découvre. Puis, alors, aussi pour un autre auteur qui est plutôt controversé, et ça, on en parlait un petit peu offline, c'est Boualem Sansal. Ça, c'est d'ailleurs un titre que tu n'as pas lu, mais que tu me recommandais, donc 2084, qui est Via Via, d'après ce qu'on t'a dit, et d'après ce que maintenant je sais, qui est un livre assez compliqué à aborder. Donc ça m'intéresse toujours, donc il faudra voir. Donc 2084 de Boualem Sansal. Donc ça, ce seraient les deux premières lectures ici que j'ai dans le viseur. Et toi, est-ce que tu as un truc qui te tente là,
Oui,
maintenant?
oui, oui. Mais moi, je pense surtout à deux choses. Donc, le premier, ça s'appelle L'été sans retour d'un auteur belge hein, qui s'appelle Giuseppe Santoliquido, donc d'origine italienne. Mais en fait, je suis allé à. Il y a eu une conférence ici près de chez moi il y a déjà quelques mois, en fait. Donc, le livre a été assez remarqué. Il est sorti, je pense, il y a un an maintenant. Et en fait, ça raconte quoi? C'est basé sur un fait divers, donc en 2005 en Italie. Donc c'est un village apparemment, il y a une fête, voilà, une fête de village. Et donc il y a une fille de 15 ans qui s'appelle Chiara qui disparaît. Et donc ben, on se met à sa recherche. Alors c'est le moment où en fait les médias arrivent et commencent à poursuivre un peu ben, la famille, tout l'entourage en fait, et ça devient vraiment le feuilleton national. Donc ce sera l'occasion pour l'auteur sans doute de faire une critique un peu féroce aussi des médias. Donc c'est inspiré d'un fait divers, mais comme il l'avait expliqué de la rencontre, il s'en éloigne aussi. Hein. Donc voilà, j'en sais pas beaucoup plus niveau de l'histoire parce que je me suis pas, j'ai pas voulu préparer parce que je vais encore garder la surprise. Mais en tout cas, ce qui était clair, c'est que j'ai beaucoup aimé la rencontre. C'était très très intéressant. Donc je pense que c'est son troisième ou quatrième roman à cet auteur. Il a fait des essais aussi, parce qu'en fait, c'est un politologue hein, au départ. Et d'ailleurs, à une époque, jusqu'à il y a quelques années, on va dire, il était encore invité dans les médias. Il expliquait que c'était maintenant quelque chose qu'il refusait parce que il veut. D'une part, il se concentre sur l'écriture plus de fiction, sur la littérature. Et d'autre part, il avait un peu de mal avec le fait d'être toujours, devoir être catégorisé dans un camp. Et ça, c'est quelqu'un qui tient beaucoup à la nuance, en fait. Donc, c'est très, très intéressant à écouter. Alors, moi, je retiens aussi de la rencontre, mais pour lui, l'importance de l'éducation, en fait, et du fait que l'école doit permettre d'élever, de donner ses chances à ceux qui n'en ont pas. Et alors, la dernière chose aussi, c'est qu'il avait un peu parlé, parce que c'est quelqu'un qui avait posé la question. Ben, en fait, il est publié chez Gallimard, donc c'est la première fois qu'il est chez Gallimard, donc ce qui est quand même une certaine reconnaissance. Hein, c'est finalement, ben, ça reste un peu la maison d'édition la plus prestigieuse en France. Et donc, jusqu'ici, il était plutôt publié chez des petits éditeurs belges. Donc voilà, il avait expliqué, en fait, tiens, que peut apporter un éditeur? Ben donc, il disait. C'est pas le style qu'on lui a fait travailler, mais c'est vraiment plus dans l'histoire. On lui fait, tiens, par exemple, ce personnage-là, tu ne fais que l'évoquer, pourquoi est-ce qu'il n'a pas un rôle plus important? Je pense que c'est quelque chose que tu devrais creuser. Et donc, c'est comme ça c'est ce qui a permis de rattraper, de corriger, d'améliorer son manuscrit. Et c'est ce qu'il avait aussi aimé, en fait, hein, donc de pouvoir, comme ça, améliorer les choses. Et que c'était très enrichissant, en fait, d'être publié comme ça. Parce qu'en fait, comme ben, il avait été un peu reconnu dans les médias, il a reçu une mention spéciale au prix Rossel ou quelque chose comme ça. En gros, s'il était resté chez un plus petit éditeur, son texte, on le prenait comme ça. Il n'y avait pas de souci. On ne cherchait pas à le retravailler. Donc ça, c'était. Voilà. Donc moi, la rencontre m'avait vraiment beaucoup plu. J'avais déjà pointé le roman avant. Mais le fait de l'avoir rencontré, j'avais encore plus envie de lire. Mais je m'étais quand même dit que comme ça se passe en été, ben, je le lirai en été. Donc j'ai patienté ici pendant quelques mois. Ben, donc ça, ce sera un des prochains. Et alors, le deuxième, Alors ça s'appelle, donc le titre c'est Un chant pour les disparus et l'auteur c'est Pierre Jarawan. Et alors en fait ici ça se passe au Liban. Pourquoi est-ce que je vais lire ça? Parce qu'en fait c'est le deuxième de l'auteur qu'il avait publié précédemment Tant qu'il y aura des cèdres. Et moi j'étais tombé dessus en fait vraiment par hasard. Et ce qui m'avait marqué, en fait ça avait parlé du Liban, qui n'est pas spécialement... Moi, on connaît le pays avec ses tensions politiques, et c'était ça qui m'avait beaucoup plu. Donc, en fait, c'est les parents. Je raconte ici un peu le premier du jeune garçon, en fait, qui était au centre du livre. En fait, avait fui la guerre, et donc s'était réfugié en Allemagne. Mais un jour, le père de ce jeune garçon, il disparaît sans laisser de traces. Et donc, il va partir un peu à sa recherche, notamment aussi retourner au Liban avec voilà un voyage un peu. La recherche de racines, de ses racines. Vraiment, ça, c'était très beau, en fait. Je trouvais, il y avait ce côté, le poids de l'exil, en fait, aussi, recherche de ses racines. Donc, quand j'ai vu que l'auteur avait fait un deuxième roman, je me suis dit, oh, ça, il faut que je l'achète aussi. Donc, ça, j'ai acheté récemment, et ce sera, je suis sûr que ce sera une très bonne lecture, de cet été aussi. Il n'y a pas de raison que je sois déçu.
D'accord, ouais, ça semble intéressant. Alors moi, il m'en reste deux plus une mention rapide. Et la première mention, ça fait quelques années que, peut-être quand même 2 ans, que j'ai pas lu un des livres de La Recherche du temps perdu de Proust. D'ailleurs, il faudrait que je revisite un peu. Je ne suis plus très sûr. Je crois que j'ai peut-être lu les 4 premiers, donc il faut que je continue à partir du cinquième. Donc là, il faut voir si je parviendrai entre guillemets à caser dans ma liste. Évidemment, ça ne se lit peut-être pas toujours. Il faut peut-être être assez bien posé, concentré, prendre son temps. Ça ne
Plutôt,
se lit
oui.
pas entre, on va dire, deux Mojito ou deux Caipirinha
Ou
ou
deux
des
arrêts de
cocktails.
métro.
Ou 2 arrêts de métro, ouais, par exemple. Donc, il y aurait peut-être celui-là. Et puis, alors, il y en a un autre de Amor Towles qui est un écrivain, en fait. Assez jeune, donc dans sa vie d'écrivain, il n'écrit que depuis, enfin il n'est publié que depuis une dizaine d'années. Il a écrit Gentleman in Moscow, qui était pas mal. Et là, alors maintenant, celui qui me tente bien, c'est Rules of Civility. C'est dans les années 40, mais je vais découvrir. Il faudra que je découvre, mais ça reste un écrivain, je pense, qui commence à prendre du volume et qui est de plus en plus connu. Et alors, un autre, enfin, le titre, c'est en anglais, c'est Guns, Germs and Steel de Jared Diamond. C'est un nom de famille, Diamond, qui semble un peu un nom d'emprunt. Et c'est en fait le titre en français. Il s'agit de. C'est en fait sur l'inégalité parmi les sociétés. Et c'est Jared Diamond, c'est un géographe et biologiste américain. Et il se concentre sur les différentes trajectoires de l'histoire de l'humanité sur les différents continents. Donc il y a notamment, si je me souviens bien, une partie sur l'importance des maladies et comment l'Europe a pu en profiter en utilisant les maladies pour coloniser, par exemple, l'Amérique du Sud. Donc il y a toute une partie là-dessus. Et puis sur les différentes trajectoires et l'importance de... C'est une sorte de... Apparemment, c'est un essai sur l'homme et l'environnement dans l'histoire. Ça me tente assez bien. Je l'ai sur ma pile depuis quelque temps. Et il est défini comme une histoire courte de tout le monde depuis les derniers 13 000 ans. C'est pour les prémices. Il a reçu, je crois d'ailleurs, un prix Pulitzer. Je ne sais pas si c'est pour ce livre-là ou un autre, mais c'est une œuvre qui a l'air assez tentante.
C'est amusant. Enfin, moi, j'ai beaucoup parlé de lecture, finalement, des choses assez légères. Et là, avec ça plus Proust, tu vois, c'est plutôt tu profites en fait de l'été pour lire peut-être des choses plus difficiles. Enfin, moi, je trouve que l'été est aussi un bon moment justement pour se lancer dans des choses plus compliquées parce que précisément, on a un peu plus de temps. Donc, à une époque, je lisais Proust uniquement l'été, quoi. C'était pas pendant l'année. Donc, pourquoi pas
Ouais.
aussi, quoi. On peut alterner. Finalement, c'est ça qui C'est ça qui peut être vraiment chouette aussi l'été.
Ouais, c'est vrai, parce que là, j'ai la garantie en fait de pouvoir lire 1 heure sans interruption, peut-être même 2 heures. Et ça, c'est quand même peut-être pas mal pour vraiment bien se plonger. Parce que pour le reste du temps, je pense que cette lecture risque d'être un peu bâclée. C'est un peu le sentiment que j'ai parfois. Si je lis qu'une demi-heure ou par un coup de 15-20 minutes, alors je bâcle un petit peu et puis je décroche. Et après, oui. Le reste de la lecture est anéanti. pour retomber sur le titre de Michel Houellebecq et ça perd un peu de saveur. Mais je ne pense pas quand même enchaîner, enfin, une Proust et cet essai-là. Donc, je vais essayer quand même de trouver un truc pour intercaler, un truc plus léger. Mais ça me tenterait bien d'essayer de parcourir au moins quelques-uns de ces titres cet été. Ouais. Le compteur recommence. Donc, il reste plus ou moins 60 jours pour les parcourir. On va voir si j'y parviens. Est-ce que tu as encore une œuvre ou l'autre qui te tente? Un film, quelque chose qui reste sur ta to-do list?
Non, parce que les films, je dépends beaucoup des sorties. Je ne sais pas ce qui sort dans les prochaines semaines, donc je n'ai pas regardé, mais j'irai probablement voir. Mais vraiment, il y a un film avec Javier Bardem qui est sorti, c'est El Buen Patron. Buen Patron, je ne sais pas très bien comment on dit. Le Bon Patron, c'est une recommandation d'Hugues Dallée. Donc ça, si je vais au cinéma, c'est le prochain film que j'irai voir. Mais c'est tout pour le moment.
Parce qu'on a eu quand même un prix à Cannes et les frères Dardenne ont aussi sorti
Oui,
quelque chose,
mais
non?
ils sortent. Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai que si on parle de Cannes, il y a plusieurs choses que je souhaite absolument voir, mais ils sortent pas maintenant. En fait, ils attendent. En fait, je pense que Cannes, souvent, ça sort à partir de septembre, pas immédiatement. Il y a une stratégie où il y en a qui sortent directement pendant le festival. Oui, moi, le Lucas Daune, ça, je veux absolument voir parce que Girls m'avait beaucoup marqué. Et je trouve ça. C'est son premier film, c'est assez prodigieux. Je trouve qu'on a le résultat quand même pour un premier film, arriver à tel point à atteindre une justesse et à diriger des très jeunes, parce que c'était un rôle extrêmement compliqué, avec un père aussi très compréhensif, très bien interprété. Et le gars, il a notre âge, quoi. Je me dis, arriver à faire un film quand même de cette envergure, chapeau. Et donc ici, le deuxième, ça, qui a eu le grand prix, ça, j'irai le voir quand il sortira, ça c'est certain. Dardenne, je suis moins fan, je dois bien l'avouer, mais vu ce qu'on en a dit ici, enfin, en fait, ça me tentait quand même assez bien. L'autre Belge qui a été primé, c'est le Felix van Groningen. Apparemment, c'est de facture plus classique, mais l'histoire me plaisait assez bien. Et ça se passait en Italie, si je me souviens bien. Donc ça, c'est aussi un why not. J'ai un peu oublié le reste, mais je pense qu'il y avait aussi d'autres films, pas spécialement primés, mais qui étaient en sélection officielle, qui m'attiraient assez bien. Donc, mais il ne sort pas maintenant. Et celui qui est sorti, c'est juste Frères et Sœurs, Arnaud Desplechin. Mais ça, c'est apparemment, il ne faut pas aller le voir. Donc ça, je n'irai pas. Et de toute façon, j'en ai déjà vu un de Desplechin et je n'avais pas été spécialement convaincu.
Ok, bah ça nous fait une belle liste.
Ah, s'il va sortir bientôt, qu'il faut aller voir, je pense. Et je me demande s'il ne sort pas la semaine prochaine. C'est Coupé de Michel Hazanavicius. Donc ça a fait l'ouverture du festival. C'est bien que tu me parles de films justement qui doivent sortir cette année, parce que oui, ça justement, ça va sortir. Et donc c'est un peu une parodie de film et ça avait l'air hilarant en fait. Je ne sais plus trop exactement ce que ça raconte, mais ça a l'air très drôle. Ça a été bien accueilli visiblement. C'était hors compétition. Je pense qu'il y a Romain Duris dans le film aussi. Donc là c'est un film où en plus c'est drôle apparemment. Donc, oui, Romain Duris et Bérénice Bejo, c'est la compagne ou la femme de Michel Hazanavicius, je pense. Donc voilà, donc ça promet d'être bien.
Ah, d'accord. Ah, Romain Duris, on aime bien de notre côté, donc on ira sûrement le voir aussi. Alors. Faudra pas que je le rate. Et donc, au départ, tu pensais ne rien avoir sur la to-do list, mais tu m'as quand même parlé de 5-10 films. Donc,
Oui, mais de toute façon, faut aller au cinéma encore. De toute façon, quand il y a quelque chose qui sort, et qu'on a envie d'aller voir, il faut y aller. Parce que le plaisir quand même de voir un film sur grand écran, je trouve que c'est quelque chose vraiment. Ben, c'est pas du tout la même expérience que sur un autre écran, en fait, finalement. Moi, je resterais partisan du fait d'aller voir le film quand c'est possible au cinéma.
oui, pour les journées pluvieuses peut-être cet été. Donc, il y en aura sûrement à voir. Mais c'est vrai que ça fait toujours plaisir d'aller au cinéma. Donc, oui. Mais donc, il y a un beau programme, ça c'est sûr. Et puis, on se verra dans quelques semaines. On parlera de notre tour sur ces différentes œuvres. On fera le point là.
Nous aussi, on a parlé de vacances, eh bien, on prend aussi des vacances, quoi.
On débranche le micro, on éteint l'ordinateur et puis on se voit à la rentrée alors.
Parfait, eh bien, à bientôt alors.
À la prochaine. Et voilà qui termine un nouvel épisode de Curls. À la prochaine.